Gloire à Dieu, nous allons dans la continuité du chant que nous venons de chanter, parler de Jésus qui est notre salut, notre foi et notre force. En résumé, c'est le chant que nous venons de chanter. C'est que le but de cette exhortation, c'est de nous amener à nous abandonner entre les mains de Jésus, à nous abandonner à lui, car c'est lui qui est notre salut, notre foi et notre force. Donc nous allons lire en introduction deux exemples de gens qui ont fait des exploits avec Dieu, mais qui à un moment ont eu des difficultés. Nous lisons donc dans Matthieu 11, 2 à 6. Ensuite, nous lirons Jean 18, 12 à 17. Matthieu 11, 2 à 6 d'abord. Matthieu 11, 2 à 6.
Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus lui répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
Voilà. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque nous lisons la suite, nous entendons Jésus dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les humains. Quand nous lisons la suite, c'est ce que Jésus dit de Jean-Baptiste. Et quand nous lisons aussi l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, nous savons que c'était annoncé et qu'il était, depuis le ventre de sa mère, rempli du Saint-Esprit. Donc celui, Jean-Baptiste, qui a baptisé carrément le Seigneur Jésus lui-même. Et il a fait des confessions extraordinaire. Il a dit des choses extraordinaires comme « Moi, je dois m'effacer afin que lui s'élève. » Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » en parlant de Jésus. Voilà. Il était conscient de qui était Jésus. Il a dit « Je ne suis pas digne de délier même ses sandales. » Voilà. Jean-Baptiste a été parfait en quelque sorte dans son parcours. Non seulement parfait, mais brillant. C'est quelqu'un qui a vécu sans se marier, qui a vécu dans les déserts en étant habillé de la manière la plus sommaire possible, tout ça en consécration à l'Éternel. Ça serait difficile de trouver sur terre un humain qui ait vécu aussi brillamment que Jean-Baptiste, spirituellement parlant. Et d'ailleurs, Jésus le confirme lui-même. Et pourtant, dans ce texte, nous le sentons douter, nous le sentons trembler. Il est écrit, Jean-Baptiste, dans sa prison, il y a cette précision-là, il est emprisonné, et dans la prison, il envoie des gens dire à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir, ou devrions-nous en attendre un autre ? Pourtant, c'est lui qui avait présenté Jésus aux autres pour dire que c'est lui qu'il faut suivre. Je suis venu préparer son chemin, c'est lui le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais là, vous savez, il y a des réalités parfois qui nous dépassent. Et nous pouvons connaître des épreuves très, très dures. Et les chrétiens qui vivent dans les endroits de persécution connaissent ce dont je parle. Je ne sous-estime pas nos épreuves à nous dans les endroits de non-persécution, parce qu'une épreuve, c'est difficile de comparer les épreuves. Je ne sous-estime pas. Je veux dire que c'est beaucoup plus clair chez eux. Voilà. C'est beaucoup plus clair quand les gens sont enfermés 10 ans, 8 ans, alors qu'ils ont une famille. Ils sont enfermés en prison 10 ans, 8 ans à cause de l'Évangile. La persécution est beaucoup plus claire, l'épreuve est beaucoup plus claire que par rapport à nos épreuves ici qui peuvent produire la même douleur dans le cœur, mais qui n'a pas la même apparence en visible. Voilà, c'est ça. Et ces gens-là connaissent ce temps-là où tu es à deux doigts de renier le Seigneur. Tu es à deux doigts de te suicider. Il y a un de nos frères qui a failli se suicider même en prison en Chine. Et il a débranché l'ampoule, il a voulu faire une liaison, je crois, entre sa bague et l'ampoule pour créer un court-circuit qui va le tuer, quelque chose de ce genre-là, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Après, il s'en est repenti. Mais c'est pour vous dire que les gens peuvent être réduits à une extrémité très forte à cause des épreuves, à cause des tentations, à cause de la pression du monde des ténèbres. Et là, Jean-Baptiste devait être en train de subir une grosse pression du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres peut nous presser terriblement, terriblement. C'est une réalité. C'est une réalité et que nous allons voir, d'ailleurs, dont nous allons parler quand nous allons parler de Pierre. Mais là, Jean-Baptiste est en train de subir ça. Et dans cette pression-là, je crois qu'il a eu une certaine envie d'être libéré, je crois. Ça, c'est ma supposition. Et il dit, mais il se dit, mais normalement, le Messie, il est quand même le roi. Il devait nous délivrer, nous libérer de l'emprise des Romains. Et voilà que je me retrouve en prison. Voilà, il a atteint un temps de difficulté qui a montré que ce n'était qu'un homme. Ce n'était qu'un homme. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Nous ne sommes que des hommes. Soyons humbles. Notre force ne peut venir que de Dieu. C'est Jésus seul qui est notre salut, qui est notre foi et qui est notre force. Nous pourrions à un certain moment ressentir nous sentir des ailes poussées. Voilà, comme on dit en français, tu te sens fort. Il y a des temps où nous nous sentons forts. Nous sentons que tout réussit et nous sommes heureux, nous sommes forts, nous sommes bien. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut croire que nous allons tenir jusqu'au bout. Nous n'allons pas tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a un temps où nous avons fait des exploits. Il y a un temps où nous étions fortement attachés au Seigneur. Ce n'est pas ça qui va faire que nous tenions jusqu'au bout. Nous ne pouvons tenir jusqu'au bout qu'en étant portés par Jésus-Christ. Là, nous voyons le meilleur d'entre nous, Jean-Baptiste, d'une certaine manière craqué. Et quand on vient voir Jésus pour dire, mais Jean-Baptiste se pose la question, est-ce que c'est vraiment toi, Jésus? Dans l'exemple que nous venons de lire, ce n'est pas mentionné, mais si vous lisez ce texte dans un autre évangile, il est dit que Jésus a fait ces miracles-là directement devant les gens qui sont venus poser les questions. Il a fait des miracles et il leur a dit ensuite, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il les a accomplis devant eux. C'est pourquoi il a dit ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'était pour dire quoi, Jean-Baptiste? Le plan est respecté. Le programme, Jean-Baptiste, il est respecté. Le programme fixé au Messie, c'est respecté. Je suis en train de faire voir les aveugles. Donc, si vous lisez Ésaïe 35, vous allez voir ce que Jésus est en train de dire là. Dans Ésaïe 35, il est dit que Dieu lui-même viendra et les aveugles verront. Dieu lui-même viendra et les boiteux marcheront. Lisez Ésaïe 35, c'est un passage extraordinaire. Et Ésaïe 61 dit la même chose. Et Jésus utilise Ésaïe 61 dans Luc 4 Quand il est dans la synagogue, il lit le texte d'Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Il cite Ésaïe 61 dans Luc 4 et là, il fait ces choses pour rappeler à Jean-Baptiste la parole. Il dit « Jean-Baptiste, je ne suis pas sorti du programme. » Le programme est respecté. Nous pouvons connaître des situations, des temps où nous avons l'impression que le programme n'est pas respecté. Mais Dieu ne nous secourt pas. Le programme n'est pas respecté. Il nous a promis la paix, la joie. Il nous a promis l'assurance. Il nous a promis la force. Il nous a promis la protection. Il y a des moments où nous n'avons pas cette sensation-là. Nous croyons que le programme n'est pas respecté. Et c'est là que lorsque nous dépendons du Seigneur, il va nous rappeler, mon ami, le programme est toujours respecté. C'est vrai que ça fait 20 ans que tu es en prison, mais le programme est respecté. L'Esprit Saint est toujours disponible. Le programme, c'était l'Esprit Saint que je devais vous donner. Tu l'as. Le programme, c'est que tu as une couronne au ciel. Le programme est respecté. Mais à nos yeux, à un moment donné, nous pouvons penser que le programme n'est plus respecté. Jean-Baptiste a dit, mais est-ce que le Messie devait se limiter à faire que ce qu'il fait là? Ne faudrait-il pas qu'il me libère de la prison? Jésus lui dit non. Même en prison, le programme est respecté. L'apôtre Paul, notre frère, il a dit, je suis lié, je suis en prison, mais l'évangile n'est pas lié. Le programme est toujours respecté. Dieu est avec moi. C'est comme ça que nos frères et sœurs qui ont connu les riches en Rembrandt, 14 ans de prison en Roumanie, avec des tortures, avec des persécutions dans la prison même, ces gens-là avaient reconnu malgré tout que le programme était respecté. Ils avaient une force surnaturelle, la force qui vient du Seigneur. Cet exemple est là pour nous dire, ce n'est pas parce qu'autrefois tu as été fidèle, tu as fait des exploits, tu as prêché, c'est ça qui va faire que tu tiendras jusqu'au bout. Nous avons toujours besoin du Seigneur. Quelle que soit la dimension que nous pensons avoir atteint avec lui, nous aurons toujours besoin de lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce sont les textes qu'on va lire, que c'est Jésus-Christ qui produit. D'abord, il commence par produire la foi. Ensuite, il amène à la perfection. C'est toujours lui. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, tu es fort, tu as ce qu'il faut. Non. Même si tu as reçu les meilleurs enseignements, même si les gens ils te trouvent extraordinaire, sache que tu n'es pas extraordinaire, tu n'es qu'un homme et que tu as besoin de Jésus. Que personne ne nous trompe là-dessus. Nous aurons besoin de Jésus jusqu'à la fin. C'est lorsque nous négligeons cette vérité-là que nous sombrons. Et lorsque parfois aussi nous sommes surpris. Parce que quand nous commençons à croire que nous sommes forts, nous ne sommes pas même conscients que nous croyons, nous pensons cela. Comment nous savons que nous commencions à penser cela? Ben, lorsque nous nous énervons dans des situations difficiles, où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne fait pas ce qu'il faut, c'est là que Dieu nous montre que, ah là, mon ami, tu commençais à te reposer sur toi-même. Et ton échec te crée maintenant la colère. Et ton échec te pousse à me condamner, moi. Mais moi, je n'ai pas de problème. Moi, je respecte toujours mon programme. Mais ce que vous oubliez dans mon programme, c'est que vous devez vous reposer sur moi à tout moment. À tout moment, nous devons nous reposer sur le Seigneur. Vous savez, un des moyens de s'en rappeler, c'est de se rappeler notre salut. Comment nous avons été sauvés? Qui peut dire qu'il savait qu'il allait être sauvé, qu'il allait en quelque sorte se sauver? Puisque je prends l'hypothèse que tu es encore dans l'orgueil de croire que tu t'es sauvé. Mais pourquoi alors tu ne t'es pas sauvé quand tu es né? Voilà. Donc, tu as attendu 20 ans, 22 ans pour te sauver. Non, personne ne savait qu'il allait être sauvé. D'ailleurs, nous croyons être dans une bonne voie. Même ceux qui faisaient le mal se croyaient dans une bonne voie, jusqu'à ce que petit à petit, le Saint-Esprit, sans que nous le sachions, commence à nous montrer en nous-mêmes que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Jean 16, 8 dit, il va laisser le Saint-Esprit afin qu'il convainc le monde entier, païen et non païen, de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre de Jésus à travers son esprit. Convaincre chaque humain. Quand nous commençons à être convaincus d'erreurs comme ça, quand nous commençons à être attirés par Jésus, c'est son œuvre. Donc le départ, c'est bien lui. Il est l'auteur de la foi. J'aimerais bien qu'on lise ce passage avant de continuer, puisque c'est le passage central. Hébreux 12. Hébreux 12, 1 à 2. Bon, peut-être qu'il faudrait lire en... On va lire d'abord en 8 secondes et moi je veux lire en français courant.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Voilà, donc il y a la partie qui dit « Jésus-Christ qui suscite la foi ». Donc on n'a pas besoin de lire en français courant, là aussi c'est un plus ou moins clair. Il suscite la foi. Celui qui crée la foi. Parce que certains penseraient que c'est eux-mêmes qui ont trouvé Jésus, qui ont compris les choses. C'est faux. Ce verset nous dit que c'est lui qui suscite la foi, qui le produit. Et un autre verset le dit, Éphésiens 2, 8 à 10, que nous allons lire aussi. C'est lui qui produit la foi. Donc, il faut que, au moment où nous sommes en train de faire des exploits, au moment où nous nous pensons très bons chrétiens, que nous nous rappelions que c'est la grâce de Dieu. Et que les débuts puissent nous aider à comprendre ça. Éphésiens 2, 8 à 10. Que le début de notre vie chrétienne nous fasse comprendre que nous étions mauvais, nous étions perdus. Et Dieu a eu pitié de nous. Il a rendu les choses claires. Il a créé l'envie de venir à lui. Lisons.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Là, ça va très loin, jusqu'à dire que même les œuvres bonnes que nous pratiquons, les exploits, la fidélité que nous pouvons manifester, ça vient de Dieu. Mais revenons sur la foi, puisque c'est la foi le début. C'est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est même Dieu lui-même qui produit cette foi. Que le début nous rappelle toujours cela. Et parfois nous pouvons oublier notre début, mais que le début des autres nous rappelle ça. Tous les gens qui nous entourent, qui ne voulaient pas croire en Dieu. Tous les gens qui nous entourent, qui rejetaient le Seigneur et que nous avons vu par la suite se convertir. Qui nous rappelle aussi notre propre cheminement, qui nous rappelle qu'une fois nous étions ignorants, nous étions loin de Dieu, nous ne comprenons rien aux choses de Dieu, et que c'est Dieu qui a rendu ça clair. Que cela nous rappelle cela. Seul Dieu peut nous sauver, seul lui peut nous donner le salut, seul lui peut susciter la foi. Seul lui peut faire grandir cette foi-là. Compter sur soi-même est une erreur grave. Nous lisons le cas de Pierre dans Matthieu, dans Jean 18, 12 à 17. Jean 18, 12 à 17, il y a des gens qui se disent, je deviendrai sérieux à 50 ans, à 60 ans, à 55 ans. Ils se trompent. Ils pensent que quand ils vont être mariés, avoir une famille, ça les rendra sérieux naturellement. Mais bien aimé, les grands mafiosi de ce monde, ils sont mariés, ils ont des enfants. Il y a des grands voleurs, des grands bandits qui ont des enfants. Ce n'est pas ça qui va te rendre sérieux. Il y a des gens qui pensent que l'âge va les rendre sérieux, mais les Soros, c'est des vieux, les Bill Gates, c'est des grands malfrats, mais c'est des vieux. Donc c'est pas ça qui va te rendre sage. C'est une erreur de penser contrôler son salut, de penser contrôler son avenir. Nous devons céder à Dieu. Quand Dieu t'appelle, accepte en ce moment-là. Ça va être notre conclusion. Notre conclusion, c'est quoi ? Que chacun de nous cède à Dieu chaque jour. Il y a des chrétiens qui calculent la vie chrétienne. Je veux servir Dieu pendant une heure et j'ai mes 23 heures pour moi. Ça, c'est ne pas servir Dieu. C'est ça qui amènera à ce que tu finisses mal. Si nous voulons bien finir, c'est Dieu qui doit se servir de nous. C'est cela notre conclusion. Parce que la question dans toute cette affaire, pourquoi nous en parlons ? Comment faire pour aller jusqu'au bout ? Pourquoi poser cette question ? Parce qu'autour de nous, il y a plein de gens que nous avons connus dans Christ qui ne sont plus. Et regardons bien nous-mêmes. N'avions-nous pas une fois boudé Dieu ? N'avions-nous pas eu envie une fois de nous rebeller contre Dieu ? N'avons-nous pas été déstabilisés dans notre foi ? C'est pour nous dire, attention, que nos vies appartiennent à Dieu à 100%. Dès que vous mettez le calcul dedans, vous allez à un moment donné être vidé. Vidé et parfois renier le Seigneur lui-même. Lisons Matthieu 18 et Jean 18, 12 à 17.
La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. »
« Je n'en suis point. » Pardon, est-ce qu'on peut continuer 25-26, le verset 25-26 ?
Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta.
Aussitôt le coq chanta, parce que Jésus expliquait à Pierre, il lui disait, « Pierre, il y a le diable qui a décidé de te cribler. » Il y a la pression diabolique. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Le diable avait demandé la permission à Dieu de cribler Job. Et Dieu avait dit d'accord, parce que Dieu connaissait Job. Et là, une fois de plus, le diable demande la permission à Dieu de cribler Pierre. Jésus dit d'accord, parce que c'est aussi nécessaire que nous soyons criblés pour les objectifs de Dieu. Mais Jésus dit à Pierre, « tu vas être criblé. Pour que tu tiennes, moi je vais prier pour toi, afin que tu tiennes. Vous savez, il n'a pas dit à Pierre, résiste-toi seul. Il a dit, c'est moi qui prends en charge ça. Je vais prier pour toi afin que tu tiennes. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. C'est Jésus seul qui peut nous maintenir dans la foi. Ne te crois pas déjà arrivé. Tu n'as pas fini la course. Je n'ai pas fini la course. Ce n'est pas parce que nous avons eu un passé brillant dans le Seigneur que nous allons finir la course. Nous allons finir la course si nous restons dans la main du Seigneur. Si nous restons dans la dépendance à Jésus-Christ. C'est ça l'avertissement et aussi la consolation que je veux partager aujourd'hui. La consolation parce que ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant s'occupe de moi. Mais je sais qu'il me tiendra. Voilà. Mais c'est aussi l'avertissement. Attention, tu n'es pas fort. Attention, tu n'es pas extraordinaire. Ce que tu peux faire aujourd'hui comme exploit, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre a répondu à Jésus, ne t'en fais pas. Les autres peuvent te renier, mais moi, Pierre, jusqu'à la mort, je suis avec toi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu ne te rends pas compte de la dimension de ce que c'est que comme combat contre cette multitude de forces de ténèbres qui va s'abattre sur toi. Tu vas me renier, mon ami. La pression va être forte. Vous savez, Pierre était un ami, c'était l'ami de Jésus. Nous, parfois, nous nous comportons juste comme des serviteurs. Mais Pierre, c'était son ami de tous les jours. Renier Jésus, ça a été une grande déchirure pour Pierre. Mais il était dépassé, c'est pour vous montrer combien l'épreuve était forte, combien la pression était grande. Et Pierre a renié le Seigneur. Lui qui a eu le courage, alors qu'il y avait des soldats qui sont venus arrêter Jésus, il a eu le courage de couper même l'oreille d'un soldat. Mais en ce moment-là, face à la pression démoniaque, il a craqué. Bien-aimé, le courage qu'on a aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on l'aura tout le temps. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as affronté 1000 chars de combat que tu gagneras dans les combats qui viendront, qui paraîtront petits. Parce que là, ça paraît petit, c'est une femme qui dit « mais tu faisais partie du groupe ». Mais une femme peut te parler comme ça, soutenue par 1000 démons. Alors que 50 soldats peuvent venir juste avec, soutenus par leur lance. Et tu es vainqueur. Mais là, la femme qui parle comme ça, elle parle avec la force de 1000 démons. Ça n'a pas le même effet dans le spirituel. Il ne faut pas sous-estimer le diable, sous-estimer les attaques démoniaques. Ça peut passer par une jeune fille, par un jeune garçon, avec une pression démoniaque. Et tu coules, tu craques. Nous ne devons pas nous surestimer. Nous ne sommes pas forts. C'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous devons nous en souvenir. L'exemple de Pierre doit nous interpeller. Pierre a tout lâché pour suivre le Seigneur. Le jour de la grande pêche, dans Luc 5, il est écrit au verset 11, « Ils abandonnèrent tout et le suivirent. » Qu'est-ce que Pierre n'a pas fait? Il a même dit ça au Seigneur clairement. « Nous, nous avons tout laissé pour te suivre. » Dans Luc 14. Et c'est là que le Seigneur lui dit, « Non seulement vous aurez des choses maintenant, vous aurez aussi des choses dans les temps à venir, vous qui avez tout laissé pour me suivre. » Pierre est celui dont Jésus à qui Jésus a donné l'autorité. En premier, il a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il parlait à Pierre aussi en même temps. Mais là, face à cette épreuve, Pierre a craqué. C'est la preuve que nous ne sommes pas forts. C'est Dieu seul qui est fort et nous avons besoin de dépendre de lui. C'est très important de rechercher toujours notre force dans le Seigneur, de prier, de demander son aide, son soutien, sa guidance. C'est à lui de tout faire. C'est très important. Il ne faut pas croire parce que tu connais beaucoup de versets bibliques, tu connais la Bible, c'est ça qui te rend fort. Non, ce qui te rend fort, c'est que tu dépends du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est notre force, notre gloire. Et maintenant, Jésus va te donner sa parole. Et ensemble avec Jésus, donc ta parole avec lui, en toi, c'est ça qui va te rendre fort. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas la quantité de connaissances que tu as. C'est lorsque tu laisses cette connaissance être gérée par Jésus lui-même. C'est ça qui te rend fort. C'est Jésus. C'est tout. Certains trouveront ça, une fois de plus, ennuyeux que je parle encore de Jésus, mais je n'ai pas le choix. Dieu a tout mis dans le Fils. Il est écrit, il a tout mis dans le Fils. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il nous a simplifié la tâche. Il a tout mis dans son Fils. Comme ça, dans son Fils, nous avons tout. C'est ça la réalité. Que personne ne nous trompe là-dessus. Tout est dans le Fils. Et Jésus a montré à Pierre ce jour-là que sans moi, tu ne peux rien. C'est ce que nous allons lire dans Jean 15, à partir du verset 4. Sans Jésus, nous ne pouvons rien du tout. Tout est mis dans le Fils.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi.
Voilà, il le dit clairement, c'est en demeurant en lui comme une branche qui est attachée au tronc que nous pouvons porter du fruit. C'est juste comme ça. Demeurer en lui, c'est quoi? C'est dépendre de lui. Demeurer en lui, c'est quoi? Accepter toute sa parole comme étant vraie. Demeurer en lui, c'est quoi? C'est le laisser nous diriger. C'est ça, demeurer en lui. Vous voyez, Pierre avait fait ses bons calculs sur le Messie, mais ça n'a pas marché. Il a coupé l'oreille, il se disait, Jésus allait réagir, tout allait se casser là. Mais il voit Jésus qui guérit le soldat dont l'oreille est coupée. Ensuite, Jésus se livre. Ce n'était pas son calcul. Tous ceux qui servent le Seigneur avec calcul, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Le reste maintenant, je peux me permettre telle chose. Ils finiront par renier le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, nous ne devons pas le servir avec calcul. C'est lui qui doit nous porter. Nous continuons. Verset 6.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Amen. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Croyons qu'il nous aime. Laissons-nous porter par lui. Cherchons la force en lui. Tout celui qui va chercher à se comporter en branche indépendante, beaucoup vont dire, moi je crois en Jésus, je m'attache à lui. Mais dans leur comportement, ils se comportent en branche indépendante. Ils prennent les décisions eux-mêmes. Ils calculent, ils décident de faire ceci ou cela. Le Seigneur a dit, ces brebis entendent sa voix et le suivent. Ce n'est pas toi qui décides là où tu dois aller. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il t'amènera où tu ne voudras pas. Quelqu'un qui décide où il doit prier, où il doit faire ceci, où il doit faire cela, et dans le calcul, d'une certaine manière, il finira par renier le Seigneur. Pour demeurer dans le Seigneur, il faut lui faire confiance. que lui qui nous porte, qui nous amène là où il a décidé. C'est ça, demeurer. Parce que sinon, tu ne demeures pas. Parce que lui, s'il va à l'est et que toi, tu dis, je vais à l'ouest pour sa gloire. Mais lui, il dit, mais moi, je vais à l'est. Toi, tu dis que tu vas à l'ouest pour ma gloire. Mais ça, tu essaies de te convaincre. Mais moi, je vais moi à l'est, dit le Seigneur. Non. Bien-aimé, si nous voulons faire les choses pour sa gloire, c'est lui qui doit nous conduire. Les gens qui font les choses par calcul. Vous savez, autrefois, je prenais au sérieux, et je ne néglige pas ça aujourd'hui encore, mais vous savez, les conseils du genre, ben, il faut que tu te reposes, il faut que tu te reposes, il faut que tu te reposes. Et puis quand je voyais aussi ma santé se détériorer à cause du travail pour le Seigneur, je me disais, mais les gens ont raison. Et quand je me souvenais aussi de certains serviteurs dont je lis les histoires, qui sont morts très tôt parce qu'ils se sont donnés beaucoup au Seigneur, je me disais, mais les gens ont raison. Même si je n'arrivais pas à suivre les conseils, mais je me disais quand même, ils ont raison dans leurs conseils. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que si quelqu'un est mort à 28 ans, j'ai oublié son nom, ce serviteur-là américain qui s'est occupé des Indiens, si quelqu'un, un apôtre dans le sud de la France, il est mort aussi peut-être à 30 quelques, mais il a fait pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Si quelqu'un a soif de son Dieu au point qu'il ne s'arrête pas et qu'il meurt à 20 ans pour son Dieu, c'est le Seigneur, notre frère Paul a dit, offrez-vous en sacrifice, voilà, vivant, sain et agréable. Il s'est offert. Je ne dis pas que les conseils ne sont pas bons, je dis tout simplement, je vois les choses autrement. Je me dis que eh bien, si ma vie doit s'en aller très tôt pour Jésus, pas de problème. Voilà. C'est comme ça. On ne peut pas contrôler l'amour quand on a l'amour pour quelqu'un, on ne contrôle pas ça. Voilà. C'est quand on dit demeurer, c'est ça, demeurer, c'est que, bon, je vais là où le Seigneur, il m'attend. Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est le lien d'amour qui décide tout cela. Toutes les autres choses, les calculs, ont leurs limites. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Et voilà ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Voilà ce qui est arrivé à Pierre. Parce que d'une certaine manière, ils ont calculé. Ils ont dit, bon, nous allons nous sacrifier pendant un temps, surtout l'apôtre Pierre, on va se sacrifier peut-être pendant 3 ans, puis Jésus va devenir roi, tout va être rentré dans l'ordre. Après les 3 ans, Jésus se laisse arrêter. Après que plusieurs fois Jésus ait échappé aux arrestations, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a cherché à arrêter Jésus ou bien le lapider, mais il avait échappé à chaque fois. Et là, cette fois-ci, il n'échappe pas. Les calculs sont fondus. Mais c'est ce qui peut nous arriver. Hein. C'est arrivé à certains serviteurs, alors qu'ils ont passé toute leur vie à prêcher la guérison. Eux-mêmes, ils se retrouvent. Et que des gens ont été guéris aussi. Hein. Ils n'ont pas fait que prêcher la guérison. Les gens ont été guéris. Et puis eux-mêmes, ils se retrouvent à l'hôpital. Ils ont beau prier, pas de guérison. Tu fais quoi? Tu renies le Seigneur. Certains, d'une certaine manière, ont renié le Seigneur. J'ai un beau-frère qui a soigné un de ses serviteurs-là. Et ce serviteur-là, il parle en quelque sorte à un païen. Mais il le confesse. Mais normalement, il devait confesser ça à l'église. Mais il confesse auprès du docteur païen pour dire, voilà, moi, toute ma vie, je prêchais la guérison divine que le chrétien ne peut pas être malade. Je suis en train de vivre le contraire ici, à l'hôpital. Et mon beau-frère voyait bien, quand il regardait la télévision, il regardait la chaîne de l'église, il était comme dégoûté, comme jaloux de voir son collaborateur prêcher, alors que lui, il est à l'hôpital, quoi. Vous voyez comment on renie le Seigneur. Tu oublies finalement le but que le Seigneur nous établit dans quel but? C'est pour qu'on produise d'autres ouvriers. C'est pas pour que nous nous restions le champion d'une église, d'un groupe, d'une communauté. Non, le Seigneur nous établit pour que nous nous produisions d'autres ouvriers. Nous devrions être dans la joie de voir quelqu'un nous remplacer. Mais là, le monsieur, il est sorti. Il a renié l'évangile. Il a renié la parole de Dieu. Parce qu'il était jaloux, il était en colère de voir son collaborateur parler là où il avait, lui, l'habitude de parler. C'est comme ça que, lorsqu'on a fait des calculs, on a placé le Seigneur dans la case guérison. Le Seigneur n'est pas dans la case guérison. Le Seigneur est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur de tout. C'est lui qui décide. Personne ne doit le placer dans une case. Et lisez, qui a fait tant de miracles, il est mort de maladie. Lisez les Écritures. Il est dit, la maladie dont Élisée, que Élisée a contracté avant sa mort, donc il est mort de maladie, alors que lui l'a guéri, il a ressuscité des morts. Même ses ossements ont ressuscité des morts. Un mort. Mais lui-même est mort de maladie. Donc on ne peut pas mettre Dieu dans une case, les choses se feront toujours comme ceci. Non. Il reste souverain. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. C'est réaliser aussi que sa souveraineté ne change pas son plan. Il reste Dieu. Tout ce qu'il t'a promis est vrai. C'est pas parce que quelque chose ne se passe pas comme tu l'aurais voulu, selon tes calculs bibliques, bien sûr. On ne dit pas que tu as inventé. C'est dans la Bible. Mais tu dois prendre toute la Bible, tout le Seigneur. Pas seulement un coin qui te plaît aujourd'hui et qui fonctionne aujourd'hui. Nous devons considérer tout le Seigneur. C'est important, bien-aimé, que personne ne nous trompe. Les calculs finiront mal. C'est le Seigneur qui doit porter nos vies. Demeurer, c'est l'arbre qui porte les branches. C'est ça. L'exemple est clair dans Jean 15, c'est l'arbre qui porte les branches. Les branches, lisons aussi Philippiens 4, 11 à 13. Philippiens 4, 11 à 13. Qui nous rappelle une fois de plus que nous devons nous laisser porter par le Seigneur. Philippiens 4, 11 à 13.
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Amen, amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qui me fortifie? Est-ce l'abondance? Non. Est-ce la faim? Parce qu'il y a des gens qui pensent servir Dieu que dans la souffrance. Est-ce que c'est la souffrance qui va te rendre fort? C'est faux. Est-ce que c'est l'abondance? C'est faux. Paul dit, c'est Dieu qui me fortifie dans tout cela. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, ma vraie force vient de Dieu. Ça ne vient pas, puisque certains pensent que puisqu'il s'est sacrifié, il a jeûné 40 jours, il n'a pas mangé, c'est ça qui fait sa force. Tu te trompes. Paul dit, j'ai appris à avoir faim, à jeûner parfois, mais j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. Ne te confie pas dans l'abondance pour te croire fort dans le Seigneur. Parce que le nombre de gens qui te suivent augmente, le nombre de vues augmente, tu te crois fort. Non, ne te confie pas dans tes méthodes de prière pour te croire fort. Non, c'est une grâce de Dieu que tu jeûnes 40 jours, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu dans l'affaire qui va te fortifier, ce n'est pas ce jeûne-là de 40 jours qui va faire la différence. Pierre a renié le Seigneur, c'est très grave, bien-aimé. Avec tous les exploits qu'il a fait, il a renié le Seigneur. Nous devons, bien aimé, accepter tous les états, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, oui, tu ne manqueras de rien. Donc au moment où tu manques de la nourriture, il va te donner la foi qui te permet de tenir. Donc tu ne manques de rien. Tu as toujours quelque chose qui fait que tu tiennes. Et c'est par Dieu. Et les gens, ils ont bloqué ça seulement à la nourriture, aux vêtements, je ne sais pas quoi. Non, tu ne manques de rien, mes bien-aimés. Vous savez, sincèrement, je peux vous dire que la chose, personnellement, que je cherche plus que tout dans l'épreuve, c'est la foi. Je suis conscient que quand je souffre et que j'ai la foi, je suis bien. Mais quand je souffre et qu'en plus j'ai l'impression que j'ai une perte de vitesse dans la foi, c'est là où il y a même des envies de suicide, quoi, de quitter ce monde parce qu'il n'y a pas la foi. C'est la foi qui fait la différence. C'est ce qui fait que tu peux être millionnaire. Sans la foi, tu deviens paranoïaque. Tu vas commencer à trouver que tout le monde veut te prendre ton argent. Dans la moindre phrase, dans chaque phrase de quelqu'un d'autre, tu vas trouver une escroquerie dedans. Tu vas prendre tous les gardes du corps. Tu vas faire. Mais c'est pas ça qui donne le bonheur, c'est pas ce qu'on a. La peur peut te saisir justement parce que tu es dans l'abondance. La peur te saisit de perdre cette abondance. C'est la foi qui fait la différence. Quand on a la foi, on a ce qui nous manque. C'est ce que nous voulons faire comprendre par ce que nous venons lire. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Dans tous les cas, c'est Dieu qui me fortifie. C'est ce que notre frère Paul dit. Dans tous les cas, c'est Dieu qui me fortifie. Donc nous devons utiliser ça comme, pour nous tous comme mode de vie. C'est Dieu qui me fortifie. Cherchez toujours la force dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Si tu te confies dans les exploits d'aujourd'hui, tu ne tiendras pas demain. Pierre a fait plus d'exploits que nous. Pierre a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux, mais il a renié le Seigneur. Nous devons nous confier dans le Seigneur. Je puis tout, mais comment? Par celui qui me fortifie. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la faim qui me fortifie, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'abondance qui me fortifie, mais c'est le Seigneur. Quand il est avec moi, je suis bien. C'est ça qui doit être notre principe de vie. Et nous lisons 1 Corinthiens 10, 12, avant de lire Hébreux 12 pour clôturer. 1 Corinthiens 10, 12.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On peut lire peut-être le verset 11 ou de 10 à 12. Voilà, du verset 10 au verset 12.
Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Parce que ces gens-là dont on parle là, c'est les gens qui ont vécu dans le désert, qui ont connu les miracles de Moïse. On parle de ces gens-là qui ont connu ces miracles-là. Vous savez, moi, l'un des miracles que je demanderais le replay, dont je demanderais le replay au paradis, c'est la traversée de la mer Rouge. Je demanderais vraiment au Seigneur de me replacer dedans et marcher. Donc, tu vois que l'eau se sépare par la puissance de Dieu. Tu marches au milieu. Tu vois un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite par la puissance de Dieu. Ça, j'ai toujours trouvé ça magnifique, extraordinaire. Mais après ça, ces gens-là se sont rebellés contre Dieu. Et ils ont vu les miracles de Moïse, mais se sont rebellés contre Dieu. Et Paul dit, attention, ces choses-là ont été consignées par écrit pour que nous ne tombions pas. que celui qui se croit debout, que celui qui pense qu'il est déjà bon chrétien, qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Nous dépendons du Seigneur. Prenne garde de tomber. Nous devons dépendre. C'est pas, je ne suis pas en train de vouloir communiquer la peur, je veux communiquer l'humilité. Soyons humbles, dépendons du Seigneur. Tant que nous dépendons du Seigneur, rien de mal ne nous arrivera. Tant que nous dépendons du Seigneur, nous aurons la foi. La foi vient du Seigneur. La force vient du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tout ça vient du Seigneur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout ça vient du Seigneur. Mais ne tombons pas dans l'erreur de nous débrouiller par nous-mêmes. Ne tombons pas dans l'erreur de faire des calculs avec le Seigneur. Ne tombons pas dans l'erreur de maîtriser le Seigneur. On ne pourra pas le maîtriser. Mais ne tombons pas dans l'erreur de construire nos vies par nous-mêmes. Laissons le Seigneur nous porter. Il a commencé avec nous par miracle, sans que nous nous en rendions compte. C'est lui qui a tout préparé à l'avance. Il a tout préparé à l'avance. C'est parce que nous avons oublié cela. C'est pourquoi il est important d'écouter les conversions de nouvelles personnes. Ça va nous rappeler que nous aussi, nous étions loin et que chaque conversion était miracle. Ce qu'il a commencé, il continue cela. Comprenons cela. Que nous devons, de même que nous n'avons pas décidé notre salut, de même que nous ne devons pas décider notre avenir, c'est le Seigneur qui doit nous porter jusqu'au bout. C'est lui seul qui est notre foi. Chercher autre chose, bâtir ta foi sur les amitiés, sur ton pasteur, sur ton église, c'est une erreur. C'est le Seigneur Jésus qui doit être notre foi. Nous avons connu beaucoup de gens, tant qu'ils étaient dans une certaine église, ils paraissaient chrétiens. Quand ils ont quitté l'église, ils ne sont plus chrétiens. De nom, oui, ils sont chrétiens, mais ils ont tout changé en disant, nous ne voulons plus suivre les hommes, mais donc vous suiviez les hommes. Donc il fallait suivre Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus, il faut suivre la parole de Dieu. Il faut accepter que tout ce qui est écrit, c'est de Dieu. C'est ça qu'il faut suivre. Lorsque ta foi est bâtie sur une organisation pour que tu occupes une place dans cette organisation, tu obéis pour occuper une place dans l'organisation, tôt ou tard, ça ne marchera pas. Le jour où tu quitteras cette organisation, tu reculeras. Nous devons obéir parce que c'est écrit dans la parole. Pour finir, bien-aimés, ne mettons pas de limites dans notre fonctionnement avec Dieu. Pour, lorsqu'il veut nous amener plus loin, nous l'arrêtons, nous disons non, je fais déjà suffisamment. C'est une erreur. Tu manqueras de souffle par rapport aux épreuves qui t'attendent plus tard. Lorsque le Seigneur t'amène plus haut, ben c'est parce qu'il sait ce qui t'attend devant. Comme il avait dit à Pierre, je prierai pour toi. Il suffisait que Pierre dise, ah Seigneur, je me confie en toi, il allait gagner. Le Pierre a dit, ah non, moi je suis déjà bon chrétien. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Il ne faut pas se surestimer, il faut compter sur Dieu toujours. Dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Voilà notre exhortation d'aujourd'hui, que le Seigneur nous ramène à l'humilité, que nous puissions nous reposer sur lui. Hébreux 12, 2 nous dit, c'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui suscite la foi, et qui l'amène jusqu'à la perfection. C'est lui qui est l'origine, l'alpha et l'oméga de notre foi. Il a produit, il a construit et il amène à la perfection. Ne continue pas à vivre par toi-même. C'est une grande erreur. Ne te dis pas, je fais ce qu'il faut, c'est bon. Non. Faire ce qu'il faut, c'est chaque jour suivre le Seigneur. C'est ça la conversion. Être dans sa main et obéir à sa voix. C'est ça qui est ce qu'il faut. Est-ce que c'est à la voix du Seigneur que tu obéis ou à ton raisonnement religieux chrétien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut obéir à la voix du Seigneur, que le Seigneur lui-même nous parle. Alléluia. Nous allons prier d'abord par rapport à ceux qui n'ont pas encore fait cette prière de dire « Jésus, je t'abandonne ma vie, je veux désormais te laisser le contrôle de tout. » Voilà, on va d'abord prier dans ce sens-là. Si tu es convaincu de faire cette prière-là, parce que tu en as marre de conduire ta vie par toi-même, tu comprends à travers cette exhortation que pourquoi pas laisser le roi de gloire, celui qui t'a créé, te conduire. Voilà, c'est logique, hein, après tout. Donc nous te laissons nous le temps de prier. Commençons par cette prière, que chacun prie à sa place. Pour ceux qui sont convaincus que c'est le temps de faire cette prière-là, c'est le temps de se donner à Jésus, c'est le temps de passer après au baptême et de suivre le Seigneur, prions. Ô Seigneur, je prie que tu reçoives les prières de tous ceux qui, aujourd'hui, décident de te suivre, de tous ceux qui ont compris qu'une vraie vie, c'est une vie de réconciliation avec le Créateur. Seigneur, merci de te manifester dans les cœurs qui n'ont pas encore décidé de tout lâcher et qu'aujourd'hui, la décision que mon frère, ma sœur prend soit une décision ferme, scellée par le Saint-Esprit qui amène à te suivre à 100%. Nous nous attendons à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te manifester. Alléluia. Et de prendre en charge tous ceux qui font cette prière à 100%. Merci Jésus. Amen. Nous allons prier de nous être crus forts, nous repentir, de résister parfois lorsque on nous présente la parole, de résister au moment où nous devons nous repentir, nous ne nous repentons pas, de résister. Parce que nous sentons que Dieu nous appelle, mais nous résistons quand même. Demandons pardon, Seigneur, et demandons à ceux qui nous aident à le suivre à 100%. Oh Seigneur, Seigneur, merci de nous pardonner toutes les fois que nous avons choisi de te résister en prétextant que nous résistons plutôt à un homme ou à une femme. Et en réalité, c'est à toi que nous avons résister, nous te demandons pardon parce que nos calculs parfois nous ont conduits dans des comportements qui ne sont pas bibliques. Nous t'avons limité, nous avons fait le choix de notre confort, nous avons fait le choix de ceux qui ne nous dérangeraient pas, Seigneur. Or, tu avais dit clairement à Pierre, on t'amènera où tu ne voudras pas, où tu seras dérangé, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes ces résistances et nous prions que désormais nos vies soient 100% pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons en même temps que ce chant demander à ce que le Seigneur prenne nos vies en charge à 100%. Disons-lui que sans lui, voilà, nos vies n'auront pas de goût. Nous avons vraiment soif de sa présence. Oh Seigneur, c'est ta présence qui donne le goût. Le frère Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est vrai, ce n'est pas l'abondance. Ce n'est pas non plus la famine. Ce n'est pas non plus la faim qui fait de nous des vrais chrétiens. Ce n'est pas la souffrance qui fait de nous des vrais chrétiens. Mais c'est toi, c'est ta présence. Notre frère David a dit, « Surtout Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. » Tu peux tout faire, sauf ça. C'est ce que nous voulons te dire. Nous voulons ta présence dans tout ce que nous faisons. Que ce soit au travail, partout. Nous voulons, au fait, marcher en communion totale avec toi. Totale. Oh Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Papa. Que ton esprit se déverse. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Prends le contrôle de tout, de nos pensées, de nos projets. Prends le contrôle de tout. Nous voulons être à toi, comme une branche est collée au tronc. La branche ne fait que faire couler ce qui vient du tronc. Et c'est pourquoi elle peut porter du fruit. Nous voulons ne laisser passer que ce qui vient de toi, Seigneur. Pas ce qui vient de nous-mêmes, ni de l'environnement, mais de toi seul. Jésus, écoute nos prières. Merci de nous avoir sauvés. Merci de t'être fait connaître à nous. Parce que quand nous regardons en arrière, nous sommes conscients que nous étions perdus. Nous n'allions pas te trouver. Même si nous croyons faussement que nous t'avons trouvé, non, nous n'allions pas te trouver. C'est toi qui nous as trouvés. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen.